Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comment c'était ce dessin animé où il y a les chiens là?
Les Aristochats?
Ouais, un dicton qui dit mieux vaut en prendre qu'un en un match qu'une fois quatre buts.
Dans la défense centrale aussi, il y a des questions. Bon, il y a Christensen qui est arrivé, mais qu'est-ce que tu fais du Capouillol?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Il est 20h, vous êtes sur RMC, c'est Génération After, suivi de l'After à partir de 22h. On est là jusqu'à minuit si vous savez compter. Tout va bien se passer. Avec nous ce soir, Walid Acharchour. Bonsoir Walid.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Une de plus.
Philosophe d'entrée.
Oui, toujours. Faut toujours être content d'être là. Une de plus. C'est intéressant.
Prends ça, Thibault Leplat.
Bah oui.
Romain Canouti également est avec nous. Salut Romain.
Salut Nico,
ça va?
Salut à tous.
Très belle veste de chasseur hein, aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Très jolie doudoune sans manche.
Ouais.
J'en avais pas vu depuis.
C'est vraiment un truc de Marseille.
Ouais, j'en avais pas vu depuis 4 ans.
Le outfit de
des gens de droite aussi.
Hein, notre ami Romain est incroyable.
Vous avez reconnu la douce voix de Nico Jamin qui sera là à partir de 22. Salut Nico.
Salut Nico, salut à tous.
Et Sofiane.
Excuse-moi, oui. Avant de t'accueillir Sofiane, je veux que tu fasses pour la France entière une imitation de Walid.
Ah ouais, d'accord. Donc je suis Walid, d'accord.
C'est magnifique.
Ah ouais, d'accord. Donc
allez sur Twitch, il y a un regard.
Bien sûr. Allez sur Twitch, sur la chaîne RMC Sport de Twitch, bien entendu. Et puis Sofiane Douaoui, du Winamax FC, est avec nous également. Salut Sofiane.
Salut à toutes, salut à tous.
Je le tiens bien ou pas ton pote?
Tu le tiens très bien et je t'avoue que tu me donnes des billes. Pour la prochaine semaine.
Parce qu'en fait, je dis ah ouais, d'accord quand je suis pas d'accord avec la personne en
face.
Ah ouais, d'accord. Je dis souvent ah ouais, d'accord.
D'accord. Et le ton est très bon.
Ouais, ouais, c'est vrai. Un peu
exagéré quand même.
Non, c'est pas du tout l'autre genre, bien entendu. Je vous donne le menu, hein, le programme de ces deux premières heures. Kylian Mbappé qui sera le prochain capitaine des Bleus. Ça y est, c'est officiel. Avis tranché de Sofiane. C'est un risque pour l'équilibre de l'équipe de France. Venez réagir au 32-16. Autre débat soulevé par Sofiane. La Ligue 1 joue sa crédibilité cette saison à travers le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est pas mal. Tu vas nous expliquer. Pourquoi? En mode philosophe aussi, hein, Sofiane.
Donc ouais. En fait, là, je vais faire toute l'émission, quoi. Ouais. En roue libre seul.
Voilà,
très
si
bien.
Tu veux, c'est pour
ouais,
toi. L'avis de Walid qui fait un appel, qui lance un appel à Philippe Clément, mais Ben Yedder et Mbolo titulaire. Voilà, si je résume, c'est un peu ça. Puis à partir de 21h, gros dossier soulevé là aussi par Romain Canouti sur l'accession au BEPF. Le BEPF pour les nuls, vous savez que c'est le sésame hein, pour entraîner au plus haut niveau. On sera avec Grégory Poirier qui est actuel entraîneur de N1, enfin de Martigon N1, qui est leader d'ailleurs de National 1, et avec Julien Metz. Qu'on connaît bien dans l'after, l'entraîneur de l'AS Auto Congo. Et on expliquera pourquoi ça coince, quelles sont toutes les réticences qui existent autour de ce diplôme. Et à partir de 22, au programme, Nico.
Au programme des 22h, le retour déjà de Daniel Riolo, 4 jours de vacances. Il revient, il nous parlera de la situation du PSG, bien sûr. On a des informations à vous donner ce soir. Fabrice Hawkins a bien bossé, notamment sur la perte désormais quasi absolue d'autorité de Christophe Galtier. On va revenir sur les séances écourtées par Messi lui-même, qui a décidé de partir d'une fin de séance de manière assumée, embarquant avec lui d'autres joueurs. Ce sera parmi les infos des 22h qu'on va évoquer avec vous. On va aussi parler de Kylian Mbappé, bien sûr, le capitana, mais Deschamps avait-il vraiment le choix que de nommer Kylian Mbappé capitaine pour la plus grande déception d'Antoine Griezmann. On en parlera. Et puis un invité à 23h, Christian Gourcuff, qui sera avec nous. Il sort un bouquin. Il nous dira, 2 ans et demi après son départ à la retraite, qu'il ne regrette absolument pas de ne plus entraîner une équipe aujourd'hui. Une sorte de Paulo Breitner breton.
Quoi, il avait commencé un petit
qui
peu.
Qui rejette un petit peu le foot tel qu'il est aujourd'hui, ce sera à 23h. Et puis, on parlera également de Manchester United, dépôt de dossier ce soir, 22h, soit les Qataris, soit peut-être également Jim Ratcliffe, soit un autre, éventuellement, qui pourrait entrer dans la danse, ce sera avec Julien Laurence en toute fin d'after.
Merci beaucoup, Nico. On vous attend au 32-16 pour réagir à toutes ces thématiques, bien entendu. Juste, hein, toutes les infos là que vous évoquiez, vous pouvez les retrouver d'ores et déjà sur rmcsport.fr. Didier Deschamps a donc tranché suite à la retraite internationale du Goloris, le nouveau capitaine des Bleus sera Kylian Mbappé. Alors le sélectionneur des Bleus s'est exprimé sur Téléfoot, il y a un petit extrait hein, qui a fuité. Kylian Mbappé est nouveau capitaine des Bleus, dit-il. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité, dit Deschamps, sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fondateur. Dans la foulée, tweet du compte officiel de l'équipe de France annonçant Mbappé capitaine des Bleus et Griezmann vice-capitaine. On se souvient quand même qu'hier Didier Deschamps était en conf de presse, qu'il n'a pas voulu annoncer l'identité du capitaine de l'équipe de France et finalement ils ont annoncé tout ça sur Twitter aujourd'hui. Bon, sur la forme, voilà, il voulait très certainement parler avec Griezmann puisque ça c'est info de notre Arthur Perrault. Antoine Griezmann, actuellement le joueur le plus capé de la liste de Didier Deschamps, il a un petit peu accusé le coup. Hier Didier Deschamps lui a annoncé la nouvelle après le dîner. Je rappelle que Griezmann d'ailleurs était capitaine une fois au coup d'envoi. C'était en en septembre dernier face au Danemark. Alors c'est assez symbolique.
Parce que c'est Mbappé, ouais.
Voilà, quand il a quitté le terrain, il a donné le brassard à Kylian Mbappé. Finalement, Kylian Mbappé, aujourd'hui, est le capitaine des Bleus. Vous réagissez comment à l'annonce qui est officielle là, du capitaine, du coup?
Ah, surpris, oui et non, parce qu'on avait compris après cette Coupe du Monde où Kylian Mbappé était vraiment le guide de l'équipe de France, qu'il avait été renforcé, que ce soit sur le terrain et même dans le groupe et en dehors. On se rappelle de ses prises de position pour Noël Le Graët. Maintenant, c'était pour moi, ça reste un choix complexe pour Didier Deschamps. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, parce que pour moi, le choix le plus logique par rapport à ce que Didier Deschamps nous montre depuis plusieurs années, ça aurait été de le donner à Griezmann par rapport à l'ancienneté, par rapport à la relation qu'il a avec Griezmann depuis qu'il est arrivé notamment. Et ben il donne à Kylian Mbappé. Maintenant, Sofiane en parlera tout à l'heure, mais surpris oui et non. Surpris oui et non, parce que je pense que ça peut laisser des traces, moi, dans le groupe, et on l'a bien vu avec Antoine Griezmann et les premières rumeurs sur des sources quand même plutôt fiables, où je pense que Griezmann l'a plutôt mal pris.
On va se faire ton avis tranché dans un instant, Sofiane. Juste avant ça, sur la forme, Romain.
Ouais.
Est-ce qu'on chipote quand on se dit, bon, bah, hier, Dédé, il était en conf de presse, il a pas voulu annoncer le nom du sélectionneur, et tout ça pour qu'au final, le lendemain, il y a un tweet qui annonce et qui officialise la nouvelle. C'est pas un peu bizarre, non?
Ouais, le timing, tu as envie de te dire, vous ménagez, quoi, vous avez vraiment besoin de prendre des followers sur le compte Twitter officiel d'équipe de France. Je trouve ça dommage. Par contre, et ça, voilà, il y a peut-être aussi une explication de, j'ai pas encore parlé à Griezmann.
Oui, mais vous pouvez le dire, je le dis en conf de presse aussi, plutôt que tweeter.
Tout à fait. Et c'est là, en fait, où on rentre dans le vif du sujet, moi, que je trouve super triste, c'est que ce qu'a dit Walid, ok, moi, tu réfléchis, tu regardes l'équipe de France, tu te dis, c'est l'équipe de Kylian Mbappé, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que le rôle de capitaine a totalement changé, et moi, le capitaine, c'est le mec qui, quand ça va mal, il invite tout le monde au resto, et il dit, la note, c'est pour moi, il faut qu'on soit une équipe, c'est comme ça. Et alors, tu avais, évidemment, le modèle de tout ça. Ben, le truc, c'est qu'on le connaît, ça s'appelle Didier Deschamps. Vous avez tous vu les yeux dans les bleus. Mmh. Tu le vois prendre la tête à tout. Titi, quand t'as le corner à gauche, tu vas à droite. On le voit, ce truc. Ça, c'est un capitaine. Et là, le truc, c'est que t'as des mecs qui veulent juste être en photo, dans des belles stories Instagram, avec le brassard. Et j'ai l'impression que, pourquoi Kylian Mbappé?
On en revient à la forme.
Pourquoi Griezmann veut être capitaine? Pourquoi Mbappé veut être capitaine? Est-ce que c'est eux qui vont, je tiens pas tout le temps à faire des restos gratuits, hein, je précise, mais c'est eux qui vont le payer, ce resto, quand ça va mal, et qui vont faire un groupe. Ils sont capitaines pourquoi? Parce qu'il y a une prime. Un jour, il y a 20 ans, je sais pas si tu te souviens, Martin Gietto avait dit, ça me fait chier d'être capitaine à Monaco, j'ai pas plus de primes de match. Bon, c'était sa conception du capitana. Fallait avoir une prime supplémentaire.
Juste sur la forme, très rapidement, pour répondre à ta question, c'est que moi, j'étais très, très surpris quand même que Antoine Griezmann l'apprenne hier. Faut rappeler qu'il y a un mois et demi, Varane a annoncé sa retraite internationale. Je pensais que Deschamps allait le faire, que ce soit qu'il aille à Madrid ou qu'il explique au téléphone, etc. Le voir comme ça la veille, entre guillemets, enfin le lendemain du retour de l'équipe de France, l'annoncer de cette manière. Moi, sur ça, j'ai été un peu surpris.
Allez, avis tranché de Sofiane.
Et puis t'as un peloton là de, enfin je suis nul en cyclisme, un groupetto qui essaye de prendre l'aspiration. On va partir sur la F1.
Il est là, le multisport. C'est pas pour rien que ça s'appelle Winamax FC. Hein.
Exactement. Voilà, tous les sports.
Alors pour toi, Mbappé avec le brassard en bleu, c'est un risque.
Oui, parce que déjà dans un premier temps, moi j'ai envie de préciser, parce que c'est peut-être pas assez évident pour les gens, que c'est un sujet important, parce que quand tu dis le capitana, on s'en fou, c'est juste un brassard. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Ça convoque les dynamiques de groupe, les dynamiques d'ego également dans un groupe, surtout en équipe de France, où on sait que c'est la crème des joueurs internationaux. C'est aussi important parce que c'est pas seulement de dire que Mbappé, vu que c'est le chef en équipe de France depuis plusieurs mois, c'est logique qu'il est le capitana et basta, on arrête le débat là. Je pense que c'est vraiment une rupture par rapport à ce qui se fait, parce que donner symboliquement le brassard de capitaine à un joueur, c'est toujours un geste fort, et encore plus quand c'est Kylian Mbappé. Donc ça, c'est pour la première partie. Après, sur le choix de Deschamps, de Walid en a un petit peu parlé, je pense qu'il pouvait pas faire autrement. Ça, faut le préciser quand même. T'as la retraite Hugo Lloris, qui d'ailleurs quand il se casse, il dit Kylian Mbappé c'est le futur, en gros c'est lui qui sera en tête de la future génération. T'as le départ aussi en retraite de Varane, qui a bien embêté d'ailleurs Didier Deschamps en disant j'aurais bien aimé qu'il reste un petit peu plus.
Ce qu'il lui aurait donné.
Voilà, exactement, il lui aurait donné, ça lui aurait évité pas mal de problèmes d'ailleurs. Et t'as l'absence de Paul Pogba également, qui lui aurait pu l'avoir également, mais qui n'est plus là pour des causes de blessures et de problèmes personnels. Donc c'était difficile de trouver autre chose. Aussi dans le timing, tu sors quand même d'une Coupe du Monde où en gros c'est la Coupe du Monde de Kylian Mbappé du côté de l'équipe de France, et puis lui sort grandi aussi de son histoire avec les primes qu'il a initiées et de son histoire avec Noël Le Graët qui est quand même intimement lié à ces primes-là. Donc de ce point de vue-là, je vois pas en fait quand t'es Didier Deschamps, moi je me mets à sa place, je vois pas quel autre choix il aurait pu faire.
Bah Griezmann, enfin je te oui, coupe déjà mais
je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de risques à ce choix-là. D'ailleurs qu'il y a un choix, est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que tu es contraint j'ai l'impression qu'il le braque pratiquement le capitaine à Mbappé par toutes ses actions. Quand je dis braquage, on parle de sportif bien sûr. Sur les risques, moi je vois déjà un risque sur la gestion de groupe. Comment Griezmann va réagir par rapport à ça? On sait que apparemment ça s'est plutôt mal passé sur les débuts. Comment il va réagir? Comment Mbappé va réagir lui-même aussi quand il sera un petit peu moins bien? Là, on est sur son prime, en gros, sur sa bonne lancée en équipe de France, mais on a eu des moments autour de l'Euro où c'était parfois compliqué. Comment lui il va réagir par rapport à son cas personnel sur le capitana? Il y a un risque aussi pour la gestion de la communication de Didier Deschamps. Ça, c'est super important de le préciser. Quand tu regardes à l'Euro 2021, où en gros quand il a un souci avec Giroud, Mbappé, sur la sortie de Giroud, sur le fait que Mbappé lui passait pas le ballon sur un match contre la Bulgarie, tu vois bien que Mbappé, il peut pas s'empêcher d'aller devant la presse, et même si en conférence, même si en interne on lui dit non, évite d'aller en conférence de presse, ça va être chaud. Lui, s'il a décidé, il y va. Donc on peut penser que ça peut le cadrer ce statut de capitana. Moi, je pense au contraire que ça va lui ouvrir officiellement la porte, la possibilité de se mettre encore plus en avant en termes de communication. Et quand on sait que Deschamps, lui, il préfère cadrer, je pense que le cadre, il va le défoncer. Donc ça, c'est un point de vue important. Et après, moi, j'ai envie de prendre aussi d'un point de vue symbolique et global. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire, je parle bien dans l'histoire de l'équipe de France, moi, en tout cas, de mon vivant, j'ai jamais vu ça, un joueur avec autant de poids et aussi peu de contrepoids? Parce que là, t'es dans une situation où t'as Kylian Mbappé, mais le reste, j'ai l'impression que c'est relégué très 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 loin. Giroud, c'est un mec qui revient en équipe de France, et en gros, on lui a dit tu reviens, mais tu te fais petit. Et Griezmann, c'est pas un mec qui se met en avant, en tout cas publiquement, parce qu'en interne, on sait qu'il a quand même 2-3 griefs sur certaines situations. Mais je trouve que c'est pas sain dans une institution comme l'équipe de France d'avoir un mec qui prend autant de place pour lui. Et aussi pour l'équipe, je préfère qu'il y ait une dilution, moi, des pouvoirs dans une équipe.
Mais t'en as qu'un de capitaine.
T'en as qu'un de capitaine, mais t'aurais très bien pu réfléchir, même si je pense que ça aurait été difficile, à un capitana avec Antoine Griezmann jusqu'à 2024, qui dilue un petit peu le pouvoir de Mbappé.
Mais t'as pas peur qu'il ait l'effet inverse? C'est-à-dire que si tu le donnes, d'ailleurs, on vous attend en 32-16 ans pour réagir, mais imagine, tu le files à Griezmann. Tu penses pas que c'est Mbappé qui après peut accuser le coup et mal le vivre, et du coup ton groupe
dans cette situation c'est compliqué, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. T'as donné beaucoup de pouvoir à Mbappé. Mbappé l'a aussi pris parce qu'il a eu des performances sportives et extérieures incroyables. Mais tu pouvais aussi te dire que le chef Didier Deschamps, il pouvait faire un coup en se disant, écoute, on va essayer un petit peu de diluer ce pouvoir-là. Je te laisse Griezmann jusqu'à 2024. On réfléchit comme ça. Je gagne moi peut-être de mon côté un petit peu plus de pouvoir par rapport à toi Kylian. Je pense qu'il a préféré faire l'effet inverse et aller dans son sens.
Moi je suis d'accord sur le côté Mbappé, c'est un peu dérangeant cette manière où tu as l'impression qu'il dit bah tu sais quoi, ça c'est à moi, vas-y. En fait j'avais le créneau là, toi tu joueras à 23h, pourquoi pas. Mais moi je demande juste, de l'autre côté, même si la forme de Mbappé dérange, est-ce que Griezmann n'est pas encore un capitaine moins légitime? Ça sert à quoi Griezmann de laisser? En quoi? Qu'est-ce qu'il a de... Je dis pas que Griezmann est un super joueur de foot. Attention, c'est pas. Mais quelle vertu de capitaine Griezmann a montré jusque-là?
Je vais te faire une comparaison par rapport aux deux. Après, peut-être que dans la tête de Didier Deschamps, c'est différent. Déjà, d'un point de vue de durée de vie en équipe de France, Griezmann, on sait très bien que c'est le fils de Deschamps. C'est le mec qui est le plus sélectionné en équipe de France depuis que Deschamps est là. Donc ça, c'est très important dans la hiérarchie aussi du capitana. Je pense à un autre truc aussi. parce qu'on le précise pas assez. Un capitaine, c'est aussi le terrain. Et le terrain, évidemment que les performances de Kylian Mbappé sont incroyables, mais dans un style de jeu, de finisseur, d'efficacité. Si tu regardes Deschamps, il y a un, Griezmann, il y a un côté beaucoup plus fédérateur dans le jeu, d'effort, de façon de fédérer sur le terrain, d'être le point central aussi tactique sur le terrain. Je pense qu'on s'est éloigné, nous, de cette définition du capitaine. Aujourd'hui, tu donnes le capitaine au mec qui est le plus bankable, qui est le plus fort. Mais on pourrait considérer aussi que le carrefour, le mec, le centre de cette équipe-là, c'est Antoine Griezmann, et ça aurait peut-être été plus logique aussi tactiquement.
Mais là où, en fait, je rejoins Sofiane, c'est que pour moi, le choix le plus risqué pour Deschamps, si on se met à la place de Didier Deschamps, c'est de l'avoir donné à Kylian Mbappé et pas à Griezmann.
Bah, ne serait-ce que pour l'aspect de la communication qu'il évoquait tout à l'heure.
Mais bien évidemment, parce que aujourd'hui, Kylian Mbappé, et il a le droit, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais si on se place sous le prisme de Deschamps, Kylian Mbappé, tu sais pas et tu ne pourras pas le maîtriser. Quoi qu'il arrive, s'il veut, il fera. Le problème de Griezmann, c'est que entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann, la relation qu'il a, elle est différente de celle qu'il a avec Kylian Mbappé. On sait très très bien que Griezmann aurait pu avoir ce consensus un petit peu de communication comme Hugo Lloris l'avait. Maintenant, là où je te rejoins, Romain, c'est pour moi, à l'instant T, entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le capitanat me paraît pas naturel à mes yeux. C'est-à-dire que je vois pas.
Mais tu le donnes à qui alors? Il t'en faut bien. Non,
c'est ça le problème.
Tu veux dire quoi? Mbappé, c'est un capitaine par défaut?
Peut-être. Parce que aujourd'hui, en fait,
peut-être
tu dirais plus forcé.
Forcé par facilité.
Pour moi, c'est pas la facilité de le donner à Mbappé. Au contraire, la facilité.
Dans la tête de Deschamps, facilité.
Dans la tête de
Deschamps, c'est pas obligation.
En fait, chacun a sa facilité. Il y a les plus et les moins. Quand tu le donnes à Griezmann ou quand tu le donnes à Mbappé. Mais pour moi, je répète, tu as plus de risques en le donnant à Kylian Mbappé si tu es Deschamps par rapport à tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le fait qu'on se rappelle au dernier Euro où Kylian Mbappé avait demander les coups de pied arrêtés, etc. Ouais. On avait dit attention en termes de management, parce qu'il ne faut pas tout donner à Kylian Mbappé quand tu es en équipe de France. Ça reste l'équipe de France de Didier Deschamps. Donc ça, sur ça, il peut avoir un risque. Et surtout, sur le fait de perdre quelques éléments clés dans ton vestiaire, parce qu'on parle de capitana, mais il y a un vice-capitaine, il doit avoir des leaders, il doit avoir des capitaines officieux. On l'a souvent dit à la Coupe du Monde 2018, ok, le capitaine officiel, c'est Hugo Lloris, mais tu as un bon mandat, tu vas avoir un Pogba qui avait pris la parole contre l'Argentine, qui restait un leader, un Raphaël Varane, etc. Sauf que le problème, c'est que si Mbappé, tu lui donnes tout, et que derrière, tu peux avoir des crises d'ego entre guillemets, avec un Griezmann qui peut l'avoir mauvaise, il va falloir avoir des relais pour Griezmann. Donc le côté risque, moi, pour moi, il est beaucoup plus fort en le donnant à Kylian Mbappé si tu es Deschamps, plutôt que Griezmann. Maintenant, je répète, mais les deux, pour moi, le capitaine et les deux capitaines qui auraient été qui auraient eu le vrai profil sous Deschamps, c'est Varane et c'est surtout Pogba. Mais le problème de Pogba, c'est que Pogba a été blessé. Et Pogba, normalement, c'était le joueur de la génération Varane, Griezmann, qui devait avoir ce brassard-là. Et pour l'instant, il peut pas l'avoir parce qu'il est plus là et qu'il n'était pas là.
Allez, on poursuit dans un instant. On vous attend au 32-16 pour réagir au capitaine est officiel. Ce sera donc Kylian Mbappé. Un risque, nous dit Sofiane. On vous attend avec Walida Charchour, Sofiane Zouaoui, avec Romain Calouti. À tout de suite en Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
20h20, vous êtes sur RMC avec Romain Canouti, avec Sofiane Zouaoui du Winamax FC, avec Walida Charchour également. On est en plein débat équipe de France. C'est officiel, le capitaine des Bleus sera Kylian Mbappé. Didier Deschamps l'a annoncé. Le compte Twitter officiel de l'équipe de France l'a également annoncé. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus.
C'est Mbappé qui a tweeté, hein, sur le compte.
Ouais, c'est son webmaster, son community manager. Et Griezmann, vice-capitaine. Voilà, comme ça, on a la hiérarchie qui a été annoncée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sofiane nous disait, c'est un risque pour l'équipe de France. Et ça appelle au 32-16, on vous attend, hein, venez réagir. On a Karim qui nous a appelé. Salut Karim.
Bonsoir tout le monde.
Salut Karim. Salut Karim.
Ça va Karim?
Ça va et vous?
Bah écoute, ça roule. Hein.
Bon.
Bon, ça dit quoi là? Alors qu'est-ce que t'en penses de la vie de Sofiane? Est-ce que tu partages sa vision? Est-ce que pour toi c'est un risque aussi de voir Mbappé porter le brassard en bleu?
Oui, pour moi c'est un risque. Parce qu'il n'a pas le profil, je trouve, sur le terrain pour être un capitaine. Pour moi, un capitaine, c'est quelqu'un qui doit beaucoup travailler, qui doit montrer l'exemple un peu. Et de ce côté-là, je trouve qu'Mbappé, il le fait pas assez. Mais d'un autre côté, je pense que Deschamps, il l'a pas donné à Griezmann, peut-être parce que, aux yeux de Deschamps, Griezmann, il va peut-être pas être titulaire indiscutable, vu la concurrence qui s'installe avec avec tout le vivier en France, avec Nkunku, l'arrivée de Kolo Muani, etc. Franchement, je pense que peut-être que Deschamps, il se dit, s'il donne le capitaine à Griezmann, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Griezmann est titulaire indiscutable.
Mais t'aurais très bien pu faire la hiérarchie inverse, c'est-à-dire tu mets Griezmann capitaine et Mbappé vice-capitaine, et si Griezmann joue pas, c'est Mbappé qui a le brassard.
Et tout le monde est content.
T'aurais pu faire ça, et en plus, si tu regardes bien sur l'année, même quand Griezmann a été un petit peu moins bien en équipe de France, il a toujours eu la confiance de Didier Deschamps, et moi je vois pas Griezmann tirer jusqu'à l'Euro 2024 en sélection. En plus là, il est bien de retour avec l'Atlético de Madrid, je le vois pas tirer jusqu'en 2024, ne pas être sélectionné ou ne pas figurer dans le 11. Je pense qu'il a toujours un crédit qui lui permet d'être dans le 11.
Surtout que si... En début de compétition, moi le premier, j'avais été très très sceptique sur la forme de Griezmann et sur son apport en équipe de France. Bon, la Coupe
il
du Monde.
Il te prouve que sur une compète, il est capable de switcher.
La Coupe du Monde nous a montré le contraire, donc ça a renforcé dans un nouveau poste en plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec toutes les méformes que Griezmann a eues sur les dernières années, que ce soit au Barça et notamment à l'Atlético, on a eu un Didier Deschamps qui lui a toujours fait confiance. Si aujourd'hui, après cette Coupe du Monde qu'il a fait, parce que la Coupe du Monde elle est quand même de bonne qualité de la part de Griezmann, plus son retour au premier plan avec l'Atlético où il est de mieux en mieux, s'il envoie le signal que Karim nous explique, c'est-à-dire je te donne pas le brassard déjà parce que peut-être que t'es pas le leader que je veux, et en plus de ça t'es pas sûr d'être titulaire. Sincèrement, non, t'as Karim, la place de Griezmann.
Karim, il met le doigt sur un truc. Alors qui est vrai
moyen,
aussi.
Il y a moyen d'être très frustré.
C'est que si effectivement Deschamps veut un mec qui, on va dire, est titulaire indiscutable, c'est vrai qu'aujourd'hui finalement en équipe de France, t'en as pas 50.
Oui, mais écoute, je suis sûr. Mais lui fait partie des indiscutables pour ma part.
Après la Coupe du Monde,
non, mais toi-même tu l'as dit. Avant la Coupe du Monde, on se disait pas ça.
Bien évidemment, mais après la Coupe du Monde.
Mais il sera où dans 6 mois, t'en sais rien.
Non, mais que ce soit en club ou parce que faut rappeler que il y avait une équipe de France avec Karim Benzema, Benzema et Griezmann avaient un peu le même champ d'action, c'était un peu ce qui posait problème aussi. C'est-à-dire que le standing de Griezmann a quand même évolué la post-Coupe du Monde. Pour moi, il a été renforcé.
Oui.
Et le gros problème, c'est parce que c'est ce que disait tout à l'heure Sofiane, c'est intéressant, c'est que il faudra se dire qu'est-ce qu'un capitaine en fait finalement.
Mais c'est ça. J'ai l'impression qu'on mélange tout là. Moi, j'ai l'impression qu'on mélange joueur important.
Oui.
Et j'ai l'impression qu'on mélange leader capitaine. Sofiane a dit Antoine Griezmann, il a été appelé, il est quasiment de tous les projets de Deschamps, de toutes les grandes aventures en bleu, et ça on peut pas le nier. Mais pour moi, un capitaine, excusez-moi de revenir sur cette image, mais j'ai pas mieux, c'est le mec qui paye les restos.
C'est pas que ça quand même, Romain.
Non, mais j'ai l'impression en termes de charisme, pour moi un capitaine, et c'est pour ça quelque part que Mbappé, finalement, avec son tweet sur Noël Legret, là, on touche pas à Zidane, mais quelque part. Avoir un mec qui prend du courage, parce que moi, j'en peux plus des Lloris. Des mecs qui prennent zéro risque, qui pensent en fait à leur gueule, mais qui pensent surtout des calculs et compagnie. Et quelque part, Mbappé, voilà, quand il fait ce tweet-là, ça peut avoir des conséquences, ça tourne en sa faveur, mais quand il fait ça, il n'y a pas beaucoup à sa place qu'il aurait fait. Et moi, j'aime bien un mec comme ça, un peu première ligne.
Oui, voilà, mais ça
va correspondre.
C'est
une métaphore rugby, il n'y a que des troisièmes lignes.
Je suis d'accord
moi,
avec
les
toi.
Moi, les Varane, les Lloris, j'en peux plus.
Oui, mais ça correspond
pas. C'est ton prisme, toi. À toi. C'est-à-dire que nous, là, on parlait du prisme Deschamps. Moi, si tu me poses la question.
Ça correspond pas au prisme Deschamps, ça.
Ça, on est d'accord.
Moi, si tu me poses la question, Mbappé, on veut quelqu'un qui, en conférence de presse, à chaque fois, explique les choses, parle, etc. Il n'y a aucun problème.
Lui péter à la gueule, finalement, mais, Deschamps. Parce que c'est ça la question, finalement.
Voilà. Moi, je réponds à la question de Nico sur le prisme Deschamps. Le choix Kylian Mbappé, c'est pas le plus évident.
Tu sais, sur cette histoire de prime, parce que j'aimerais bien y revenir, il y en a plein qui utiliseraient l'argument en disant il a été fédérateur avec le groupe sur cette histoire de prime,
il
notamment.
C'est pour lui, à la base.
Exactement. C'est ça la question. C'est que le postulat de départ, c'est une démarche individuelle. Il emmène ensuite le groupe avec lui sur l'histoire des primes, mais on se rappelle que cette histoire-là, c'est son avocate qui met en avant ce problème. Et après, évidemment, quand c'est bien argumenté, en plus, en termes d'oseille, tu peux récupérer un petit peu plus. Donc, toute cette histoire-là, finalement, il arrive à lever le groupe avec lui. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que, peut-être qu'il va le développer avec son capitana au fur et à mesure des années, mais est-ce que Kylian Mbappé, il est capable d'aller au feu sur des sujets de groupe qui ne le concernent pas directement,
bah là,
en termes d'individu.
Oui, là, il est obligé.
Mais c'est une question. C'est parce qu'aujourd'hui, on te dit, c'est un capitaine naturel. tactiquement sur le terrain, pour moi, c'est pas un capitaine naturel. En interne, évidemment qu'il a un charisme, il a une prestance évidemment naturelle de performance qui peut l'amener à ça. Mais c'est pas une évidence pour moi claire et nette que ce mec-là est capable de fédérer un groupe sur des sujets. Quand t'es capitaine de l'équipe de France, c'est pas qu'une question d'oseille et de prime. Attention, t'as des trucs qui te concernent pas tout le temps.
Ben c'est
tu
ça. Kylian Mbappé,
là, la question elle est là.
Je trouve que s'il y a un joueur dans l'histoire de l'équipe de France qui se rapproche, enfin qui est similaire à Mbappé, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est Thierry Henry. Voilà. Et je trouve que regarder la période de l'équipe de France où Thierry Henry a été capitaine, alors pas tout être sa faute et compagnie, mais tu avais Deschamps, Blanc. T'as eu Zidane. Ensuite, quand Henry a pris le truc, tu as vu un mec, ouais, De Sailly, ça vira. Mais quand Henry a pris le lead et a pris ce fameux brassard, c'est exactement la situation que décrit Sofiane, c'est-à-dire un mec qui était avant tout préoccupé par son truc à lui et qui ensuite, s'il y avait possibilité d'emmener les autres, il a emmené les autres.
Après, il n'avait pas le même âge.
Mais ça, en fait, et regarde question. Comment ça finit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on t'emmène, mais tu n'es plus titulaire et compagnie, après, tu es au fond du bus et tu laisses passer les choses.
La différence avec Thierry Henry, c'est que sportivement, Thierry Henry n'était plus, entre guillemets, à son meilleur niveau.
Il n'était pas dans son prime, contrairement à Mbappé.
Exactement. Ou Mbappé, on sait très bien que son niveau, normalement, il va l'avoir et il va être régulier. Maintenant, juste la dernière chose, Nico, et c'est important d'insister là-dessus, c'est que, en fait, le problème avec Kylian Mbappé, c'est qu'en fait Kylian Mbappé c'est tellement un ouragan pour tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui Deschamps, il a bien vu l'importance qu'avait Kylian Mbappé dans la destitution de Noël Le Graët.
Il peut le faire sauter avec un tweet.
De Noël Le Graët notamment. Et le problème c'est qu'en fait avec ce que peut comporter un mec comme Kylian Mbappé dans ses avantages comme dans ses inconvénients, c'est-à-dire de prendre position pour des trucs très très importants. Mais aussi, le problème, c'est qu'il peut être beaucoup plus important que l'équipe de France. Et là, en lui donnant le brassard de capitaine, j'ai l'impression quand même que Didier Deschamps nous envoie un message en disant, bon, bah, si je lui donne pas, bah, moi aussi, on sait très bien que aujourd'hui, entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps, il a bien vu aussi ce qui s'est passé avec Corinne Diacre. Bon, même si c'est pas comparable, mais demain, si Kylian Mbappé décide, eh ben, Kylian Mbappé aura. Ouais. Et ça aussi, ça peut être problématique par la suite. Et ça, il va falloir être vigilant. Mais en même temps, vu que Kylian Mbappé, tant dans ses performances sportives avec l'équipe de France, que tant même sur l'extra sportif sur les dernières semaines, il est tellement incontournable et tellement indéboulonnable qu'il y a aussi un cas complexe. C'est complexe.
Mais l'institution ODF peut mettre un stop un petit peu, un ralentissement par rapport à ça. Elle l'a pas fait.
Mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fédération, elle est par terre. Que Didier Deschamps, il subit tout ça. Et il y a une dernière chose là-dessus, c'est que si on avait fait cette fin de cycle.
Ça fait beaucoup de dernières choses quand même, là.
C'est la dernière. Si on avait fait cette fin de cycle, notamment Sofiane, sur le fait que quand on disait à un moment donné Deschamps, faut qu'il arrête. Parce que s'il y a pas Deschamps, si c'est Zidane ou si c'est un autre, et ben Zidane il fait son choix à Mbappé et il y a pas Griezmann parce que Griezmann il peut pas aller voir Zidane en disant oui mais moi j'ai eu une histoire de 10 ans avec toi, pourquoi tu m'enlèves le brassard? Non, il y a une cassure. Et là le problème c'est que Didier Deschamps n'a pas cette cassure parce qu'il a vécu avec Griezmann.
Non, au contraire, la cassure il l'a fait vis-à-vis de Griezmann.
Exactement. Ouais. Ça aussi c'est important à dire.
Karim, merci d'avoir été avec nous.
Merci Karim.
Merci à vous. Hein,
Karim. Merci Karim.
Et tu reviens quand tu veux, Karim.
D'accord.
Bonne soirée. Salut, Karim.
Ah non, c'est pas lui. Ah merde. Je suis chaud, moi.
Ouais, t'es chaud?
Ouais.
Ah, il est chaud.
Ouais. Bah, quitte à ce que ça explose.
Le côté fin de cycle sans fin de cycle, à un moment donné, il y a des choix qui peuvent poser problème.
Mais attendez, dans le classement des 30 qui font le foot français de l'équipe, c'est qui est devant? C'est Mbappé ou c'est Deschamps?
Alors, ça, c'est la bonne question.
Ah, là, c'est la bonne question.
Non, c'est Mbappé, c'est Griezmann.
Et dans celui de Daniel Riolo, est-ce que c'est Mbappé qui est devant?
C'est Daniel.
Ça devrait être Daniel, le capitaine. Voilà, ça serait plus simple.
Il est président, qu'est-ce que tu veux, toi. La Ligue 1 joue sa crédibilité à travers le Paris Saint-Germain et la saison du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un autre thème soulevé par Sofiane. Mais bizarre, qu'est-ce qu'il a inspiré ce mec en ce moment?
Je suis pas sûr que les gens comprennent dans ce sens-là.
Alors vas-y, c'est quoi le sens?
Non,
vas-y pour teaser, ils appellent le 32-16, donne leur envie.
C'est de dire que.
Est-ce que t'es à contre-sens?
Oui, non, on rappelle très très régulièrement que le Paris Saint-Germain, c'est pas un grand Paris Saint-Germain. Pourtant, ils ont 7 points d'avance. Ils sont tranquilles. Est-ce que c'est pas un problème de crédibilité par rapport à la Ligue 1? Petite comparaison avec les autres championnats où quand t'es moins bien, Dortmund, ils vont devant le Bayern par exemple.
Et bah voilà, venez réagir au 32-16 avec Sofiane.
J'ai plus compris avec Nico, moi.
Merci, ouais. Moi aussi.
D'accord.
Et avec Romain Canouti, à tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Sofiane Jouaoui, Walid Acharchour, avec Romain Canouti, avec vous sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live. Au 32-16, bien entendu, on évoquait le brassard de Kylian Mbappé en équipe de France il y a quelques instants, puisque c'est officiel. Hein. Si vous vivez sur une autre planète, ce sera lui le capitaine. Le vice-capitaine, ce sera Griezmann. Autre débat, inspiré par Sofiane. La Ligue 1 joue sa crédibilité à travers la saison du PSG. Alors, visiblement, j'ai mal expliqué les choses. Alors, vas-y. Ah ouais, d'accord, j'explique mal. D'accord.
Non, c'est peut-être moi par rapport à... Non, mais je joue sa crédibilité. En gros, le PSG est devant facilement, alors que c'est un PSG qu'on critique toutes les semaines, logiquement d'ailleurs. Comment on explique cet écart-là? Est-ce que, quand tu regardes les autres championnats, les champions, quand ils sont un petit peu moyens, ils sautent de leur trône, et chez nous c'est toujours le Paris Saint-Germain? Est-ce que la Ligue 1 est toujours crédible si ce PSG est champion à la fin de la saison?
Il pose bien les jalons là ou pas?
Ça va?
Ah c'est bon, on y va.
Ah, c'est bon,
ok, bon, on est dedans.
Ok,
c'est bon.
Cool. C'est
bon. Et alors, vous dites quoi?
On va attendre, on va écouter.
On va effectivement. Ah, on va... Non mais c'est pas un avis tranché, hein. Là il vient de juste poser le débat.
Ouais, j'ai
là,
juste posé moi. Alors vous démerdez. Allez-y.
Juste, faudrait peut-être récupérer, mais je crois qu'on était ensemble en janvier. On parlait de la Ligue 1.
On est tout le temps ensemble.
Ouais. Et je vous avais dit, ouais, bon,
un peu trop visiblement
sur ce plateau, je précise.
Oui.
Et je vous avais dit au final cette Ligue 1 pour laquelle on s'enthousiasme. Je me souviens, on avait eu un auditeur de Lille qui nous avait dit mais regardez, ça joue super Lille et tout. Et je vous ai dit oui, mais n'oubliez pas qu'on est dans une Ligue 1 aussi où en bas quand c'est nul, c'est très nul. Et je prends cet exemple, et je suis pas le sudiste qui arrive en victime, mais quand je vois la saison, la vie tout simplement du SCO d'Angers, je me dis si ce club s'appellerait Arles-Avignon ou des trucs comme ça, on en parlerait 8 fois plus. Mais ce que fait Angers en fait,
c'est pourquoi Angers va pas plus loin.
Non mais Angers c'est totalement nul.
Là, tu
et
parles
en fait,
du 21e
ça distribue des points à tout le monde.
Bon, mais là, c'est un peu l'exception,
fausse.
Non peut-être.
Non, sinon, moi je parle vraiment des poursuivants.
Non mais ça fausse. Mais justement, mais ça fausse la perception. C'est-à-dire que à Marseille, les fans d'Igor Tudor disent, mais regardez, et si tu regardes le nombre des, enfin il y a quand même en Ligue 1 des équipes qui tournent avec une moyenne de points importante. Tu es là à dire tu dors, mais regardez le nombre de matchs qu'on a gagné, c'est génial et compagnie. Et sur plein d'équipes, Rennes a beaucoup plus de points qu'à la même période l'an dernier. Donc tu pourrais te dire Rennes, ça va beaucoup mieux et tout. Mais en fait, c'est faussé parce que
deux points de plus.
T'as des équipes qui t'ont donné des points en bas. Alors c'est plus le cas d'Auxerre, mais il y a une période où tu jouais Auxerre, c'était cadeau. Et là, par exemple, dans la course justement des poursuivants du PSG, tu avais Monaco et Lens. Ils jouaient Ajaccio et Angers. Bon, ben, on savait à l'avance que ça allait faire 3 points pour tout le monde, c'est cadeau.
Non, mais.
Les matchs ont fait 3 points pour
non,
tout le
monde.
Non,
mais Romain, regarde, juste en Italie, Cremonese, ils sont derniers, ils ont une victoire depuis le début du championnat, tu vois. Sampdoria, c'est une horreur aussi.
Mais c'est sur la dire, moyenne de toutes ces
alors que
ces
le Napoli,
équipes-là.
C'est une équipe extraordinaire et que, tu vois, moi, c'est vraiment, je peux entendre ton avis sur le fait que les derniers sont vraiment pas bons. Bon, pour le coup, sont derniers. Moi, je pensais vraiment aux poursuivants, à Marseille et à Rennes. À Lens, encore une fois, ils surperforment, ou en tout cas, ils font du très très bon travail. À Monaco, à Lyon, ils sont 10e, le ridicule de leur saison par rapport à ce qu'ils devraient challenger. Et moi, je me disais, parce qu'on a souvent loué le jeu en Ligue 1. Déjà, j'ai pris une première claque sur la Coupe d'Europe, mais ça, on en avait déjà parlé. Mais on a souvent.
Ce qui d'ailleurs va dans le sens de ce que tu dis.
Oui.
Finalement, t'as des clubs qui sont vraiment en Coupe d'Europe. Ouais. Après, ils te disent d'excuses. Ouais, mais nous, on peut pas jouer en semaine. Tu joues qu'un match par semaine, mais comme ça, t'y arrives pas.
Hein. Déjà, ça me gave par rapport à ça. Et moi, qui suis un supporter de la Ligue 1, vraiment, de manière, depuis tout petit, je me dis, dans cette Ligue 1-là, qu'on a besoin de mettre en avant, t'as le jeu, ok, c'est cool. On peut le dire pendant toute la saison. Il y a eu des matchs très sympas. Il y a une progression. Il y a des coachs très intéressants. Ça, on peut le préciser. Mais quand tu te manges la claque de la Coupe d'Europe, et puis qu'après tu regardes le championnat et tu dis, ce Paris qu'on défonce toutes les semaines avec les problèmes en interne, avec les problèmes sportifs, avec l'incohérence tactique, etc. Même s'il y a un décalage incroyable de budget, de masse salariale entre le PSG et les autres, je peux pas accepter moi que le PSG finisse la saison champion avec 7 à 10 points d'avance. Je peux pas l'accepter. Vraiment, parce que c'est
ça en fait, c'est quoi ce que tu dis? C'est que la Ligue 1, elle est pourrie, en fait, cette année.
C'est pas qu'elle est pourrie, c'est que j'aimerais qu'elle soit validée.
Plus compétitive.
Qu'elle soit validée de manière claire par un geste fort, comme un changement de champion. Comme on l'a vécu sur les dernières années par moment, mais pas assez. Et moi, j'ai envie de regarder, parce qu'on a souvent dit, ils ont des moyennes de points incroyables. Rennes est sur une moyenne de points folle, malgré le fait qu'en
mais
ce moment, c'est un
fait,
peu plus compliqué.
Maquillé.
Que Marseille,
ils sont
tu
pas
l'as
si
dit.
Forts, mais c'est poursuivant. C'est ça,
si,
ce que
c'est
je veux
quand
te
même
dire.
Pas mal, parce que Marseille est quand même sur une moyenne de points incroyables. Mais quand tu regardes un petit peu, la réalité, c'est que Marseille, entre guillemets, encore une fois, c'est que 2,10 de moyenne. Si tu veux être champion, si tu montes, ne serait-ce, parce que Paris c'est 2,35, si tu montes ne serait-ce qu'à 2,30, t'as un rapproché quand même, et 2,30 c'est pas insurmontable pour
Arnold. Là, on fait des mathématiques.
Oui, mais c'est quand même important, parce que moi ce qui me dérange, c'est vraiment l'écart qu'il y a aujourd'hui. Et j'aimerais, et j'espère qu'à la fin de la saison, surtout symboliquement, parce que l'année prochaine on passe sur une Ligue 1 à 18, qu'on veut plus de compétitivité, qu'on veut plus de qualité.
Tu veux que ce soit plus serré, quoi.
J'aimerais que ce soit plus serré. Voilà.
Et, ou alors que si le PSG a 7 points d'avance, qui déroule, quoi.
Mais je trouve qu'on est, un peu, on va trop vite en besogne. C'est-à-dire que là, le PSG est à 7 points de l'Olympique de Marseille. Le PSG va jouer Lens, va jouer l'Olympique Lyonnais et va se déplacer à Nice. Le PSG qu'on est en train de voir depuis 2023, moi, pour moi, en termes de classement, hormis la victoire qu'il y a eu au Vélodrome, où là vraiment on a eu un Paris Saint-Germain concerné et un Paris Saint-Germain qui a fait la différence avec un Kylian Mbappé.
Un Kylian Mbappé, ouais, voilà, concerné.
Avec un Kylian Mbappé des grands soirs, mais il n'y a pas eu que Kylian Mbappé. Ils ont aussi fait un gros match, il faut le dire. Mais pour moi, le PSG mange sur les 6 premiers mois. Ou sur les 6 premiers mois, ils ont eu notamment les 3 de devant qui ont été concernés et qui ont fait les différences.
Mais PSG, tu peux pas jouer 6 mois. Non, mais,
d'accord.
Non, mais, tu peux pas avoir 7 défaites en 17
mois. Ils ont joué 6 mois, ils ont 7 points d'avance encore.
Mais la réalité, c'est que en 2023, ce qu'appelle Sofiane.
Moi, c'est un vœu, c'est pas un constat.
Non, mais ce qu'appelle Sofiane, tu peux pas tout avoir dans la vie.
Pourquoi?
Parce que à un moment donné, en début de saison, l'écart du Paris Saint-Germain et des autres équipes était quand même considérable. On se rappelle du troisième.
Oui, mais là, s'il s'est réduit, c'est pas grâce aux autres, c'est à cause du PSG.
Non, mais Nico, laisse-moi terminer. Je vais développer. C'est-à-dire que on se rappelle du quatrième match où il y a 7-1 contre Lille. On dit, mais cette saison, comment les autres poursuivants vont faire face à ce PSG-là? Là, aujourd'hui, en 2023, on a quand même une équipe du PSG qui a perdu contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France, qui a perdu contre Lens, qui a perdu 2 fois contre Rennes. Qui a perdu 2 fois contre Rennes à l'aller au retour en 2023, qui s'est fait accrocher par Reims. Il a fallu un coup franc à la 93e minute contre Lille pour que le PSG gagne contre Lille. À chaque fois qu'ils ont joué les gros, ils ont été en grande difficulté.
Ils ont combien de points d'avance là?
Ils ont 7 points d'avance. Ouais, il reste 9 matchs. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le PSG et dans quel état ils vont être notamment. Après, encore une fois, l'Olympique de Marseille et le RC Lens, ou même il y a que Monaco, où pour moi Monaco ils sont critiquables.
Oui, mais le problème Walid, pour rebondir sur ce que dit Sofiane, c'est que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que les autres gros derrière le PSG,
ils font leur saison.
Non, ils font leur saison face au PSG. Mais attends, excuse-moi, la deuxième place ou même la troisième, personne n'en veut.
Non, mais
regarde les résultats de Monaco.
L'Olympique de Marseille est deuxième. Ils font leur meilleur
en termes de
moyenne de points de l'histoire. Je sais pas ou pas très loin. Aujourd'hui, attention avec l'analyse qu'on a du Paris Saint-Germain, le PSG, on est très très exigeant avec eux déjà sur l'extra sportif, sur le sport. Parce que depuis
mais Sophie, il te parle aussi des poursuivants, il ne te parle pas que du PSG.
Bah non, mais si, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que le Paris Saint-Germain tombe.
Non, il dit que ce Paris Saint-Germain ne devrait pas avoir cette bonne année.
Il ne faut pas oublier que
celui-là pour la trane.
Il faut pas oublier que ce PSG, sur la majeure partie de la saison, notamment sur les 3 premiers mois, comptablement et en termes de résultats, ils ont fait le travail. Et beaucoup plus que ça. La même chose l'année dernière, le PSG.
Mais comment ils ont fait le travail?
Le PSG,
on en discutait l'autre fois, on regardait leur calendrier. Il y a combien de matchs qui sont réussis et qui sont cohérents depuis le PSG?
Ça, c'est autre chose. C'est qu'ils restent supérieurs individuellement. Combien de matchs? Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le football marche aussi par rapport aux individualités. Et que, encore une fois, il y a énormément de matchs où le PSG, sur la première partie de saison, ont fait la différence par leurs individualités. Et il ne faut pas oublier que quand tu as un Kylian Mbappé, quand tu as un Neymar comme sur la première partie de saison, quand tu as un Lionel Messi, la majorité des points, tu les remportes.
Regarde, évidemment, attention, je déteste les comparaisons entre les championnats. Mais en fait, vu qu'on bouffe du championnat étranger à chaque fois, ici, on adore ça, je suis obligé de faire les comparaisons ailleurs.
Ouais.
Moi, là, on est à un moment clé. Je regarde les autres championnats. Dortmund, par rapport au Bayern Munich, en termes d'individualité, c'est pas supérieur. Ils sont devant.
Mais le Bayern, ils ont gagné 10 championnats de suite.
D'accord.
10 championnats
de suite. Mais quand le Bayern est un peu moins bien, comme cette saison, en termes de résultats, évidemment, dans le jeu, ça peut être super intéressant par moment. Mais quand le Bayern est un peu moins bien, dans le doute, avec Nagelsmann, sur les dispositifs, il se fait très critiquer en championnat, dans les médias, par Bild, etc. Dortmund arrive, avec une série, à se mettre devant. Je vais en premier. Attends, mais je compare pas les les championnats. Attention, je dis juste, moi j'aimerais que mon championnat il soit un peu comme ça. Je vais en Première Ligue, Manchester City cette saison, ils sont pas top individuellement et dans le jeu.
Mais ils tombent sur une équipe incroyable d'Arsenal.
Et on peut pas avoir ça nous. Arsenal, ils ont 2,46 de points, 2,46 points de moyenne cette saison. On peut pas avoir une équipe qui surperforme.
Alors les performances.
Mais on l'a eu, on a eu Monaco 2017.
C'est pas assez.
Juste les gars, si tu regardes en te disant, ben là il faut faire ça, il faut faire ça, il faut avoir 2,46 points, donc là il faut prendre 3 points.
Ah oui, c'est des mathématiques.
Sur le papier, on peut le faire. Par contre, pour te dire, pour suivre un club qui est juste en dessous du PSG, à savoir l'Olympique de Marseille. Si tu regardes la saison de l'Olympique de Marseille là, et justement pour être dans ta logique de dire, ben quelque part, ce que tu dis, c'est l'OM a merdé. Pourquoi l'OM? Non, mais dans l'esprit, pourquoi alors que ce pari est peut-être prenable et que c'est la crise, pourquoi l'OM n'arrive pas au-dessus? Et quand je regarde moi la saison de l'OM, je trouve que l'OM performe super bien, parce que quand l'OM fait nul contre Strasbourg à domicile avec les deux buts d'Aoulou, eh ben au final la réussite qui leur échappe là, ils l'ont largement la semaine d'après à Reims. Enfin, je veux dire, tu as pas de regret de fou de te dire, bah, alors oui,
à un moment t'es quand même pas loin,
juste les gars, faut qu'on fasse une pause.
Surtout ce match contre le PSG. Par contre, si tu regardes tous les matchs de l'OM où c'était accroché, Paris à l'aller s'était accroché, Paris au retour en championnat, il n'y a pas eu photo.
Allez, on revient, on vous attend.
Ils sont à 7 points du PSG, Nico. Ils ont perdu 2 matchs contre Paris, à l'aller au retour, 6 points. Et ben, ils seraient à 1 point du Paris Saint-Germain. Mais tu peux pas gagner contre le PSG parce que le Paris Saint-Germain reste quand même.
On sera avec Frédéric qui
reste supérieur quand ils le veulent, surtout contre l'OM.
Et on vous attend au 32-16 justement avec Walid Acharchour, avec Sofiane Zouaoui, avec Romain Canouti. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Sofiane Zouaoui du Winamax FC, avec Romain Canouti, avec Walid Acharchour.
Ah ouais, d'accord. Avec Sofiane.
J'ai dit Sofiane.
Ouais, c'est joli.
Sofiane Zouaoui.
D'accord.
J'ai dit Sofiane vraiment.
Ouais.
Je suis désolé.
C'est pas grave.
Je suis désolé, je voulais vraiment
t'en veux pas. Niklas.
Niklas. Wow. On vous attend au 32-16 sur l'application Direct Studio, les amis, bien sûr. Dans Génération After avec Walid Acharchour, Monsieur Romain Canouti, bien sûr. Qu'on embrasse, les amis. Hashtag.
Qu'est-ce que tu le tiens bien?
Oui, ouais, entre autres. Ouais. Bien sûr. Ah, ouais, d'accord.
Il y a quel numéro, Messi, au PSG?
Le duel. Non, bataille de 30. Embrasse.
C'est quand tu lances ton stand-up des imitations?
Je sais pas. Roland souvent m'encourage à faire ça.
Tu sais qu'il y a un mec, sur Twitter, un anglais, qui imite extrêmement bien les joueurs de foot, les consultants, même les mecs de F1. Il fait
avec
un carton.
Un peu chelou, là.
Si tu veux gagner 100 000 abonnés, je peux t'assurer, mets-toi dans ça.
Je vais essayer. Ouais, lui, il le fait extrêmement bien. Il fait Klopp, il fait Mourinho,
ouais,
il fait
Sénégal. Je sais pas comment il s'appelle.
Même toi, tu le fais extrêmement bien. Non, il le fait beaucoup mieux que moi, je sais. Ah ouais, d'accord.
C'est vrai qu'il le fait mieux que toi.
C'est vrai. On était en plein débat Paris Saint-Germain, bien sûr, avec Sofiane.
Nom de Zeus.
Voilà. Et là, c'était effectivement. Frédéric nous a appelé. Bonjour Frédéric.
Salut tout le monde, ça va bien?
Ça va et toi Frédéric? Ça roule ou quoi?
Bah écoute, ouais, tranquille, tout va bien. Je rentre chez moi, j'entends votre débat, je lui dis il faut que j'appelle.
Ah, alors vas-y, qu'est-ce qui t'a énervé? Ou pas énervé d'ailleurs?
Bah si, c'est un peu. Dans la vie, je suis prof et donc on va reformuler votre question. Votre question,
vas-y,
c'est...
parce que on n'est pas d'accord depuis tout à l'heure. Donc
c'est sûr, il y avait vas-y, vas-y, vas-y,
vas-y, vas-y, Fredo.
Votre question, c'est la Ligue 1 a-t-elle perdu en crédibilité? Ma réponse, c'est la Ligue 1 a-t-elle eu déjà de la crédibilité?
Ah ouais.
Bon.
Ah ouais, toi tu y vas. Ouais, d'accord.
Je regarde les faits. L'Union Saint-Gilloise est en Coupe d'Europe encore. Siva Sport est en Coupe d'Europe encore. Rennes s'est fait éliminer contre un club qui a plus de pays ou qui a un pays en guerre, quoi. Enfin, c'est un... si on vit en vase clos ensemble, etc., c'est génial, chaque semaine la Ligue 1, etc., etc. Mais dès qu'on regarde un petit peu l'extérieur, ce qui se passe en Europe, mais on n'a jamais eu de crédibilité.
Ah, sur ça, on est d'accord.
Ouais. Bah, c'est vrai que ce que dit Fred finalement est fatal. Alors, Sofiane, lui, il voulait plutôt parler de la vision franco-française en interne, mais.
Non, mais Fred, il a une approche de prof analytique, mais moi, je suis un soldat, mon ami. Moi, j'ai envie.
Lui, au fond de la classe.
Mais elle est biaisée, cette vision. Mais elle est biaisée, cette vision franco-française, en fait.
Après, je pense qu'il faut dissocier entre, bien évidemment, ce qu'on a vu en Europe et les grosses, grosses déceptions. On l'a dit à plusieurs reprises qu'on n'a pas le droit d'être à ce niveau-là encore cette saison, surtout cette saison où moi, peut-être pas Romain, hein, parce que Romain, t'avais été très très froid à l'époque déjà sur le niveau de la Ligue 1. Moi, j'ai vu des choses et je trouve que cette Ligue 1-là s'améliore clairement.
15 ans que c'est comme ça.
Non,
on est en retard, mais ça s'améliore.
Non, moi je vois une différence par rapport à ce qui se passait sur les dernières années. Après, peut-être qu'on l'aperçoit pas de la même manière, mais la réalité, c'est que le débat de tout à l'heure, c'est est-ce que en fait, on dit qu'il y a des entraîneurs qui font mieux jouer leurs équipes. On a quand même parlé de cette année de Fonseca, on a parlé de Will Steele, on a parlé de Tudor, on a parlé de Franquez, on a parlé de Montagny, etc. Et est-ce que on peut continuer de valoriser cette Ligue 1 alors qu'un Paris Saint-Germain qui depuis 2-3 mois, parce qu'il faut le dire, depuis 2-3 mois est catastrophique et même parfois clownesque, est-ce que c'est normal que ce PSG-là soit à 7 points? Moi, je pense qu'il faut décorréler tout ça parce que dans une saison, il y a eu plusieurs histoires, il y a eu un PSG à plusieurs visages, il y a eu aussi ces équipes-là, les poursuivants à plusieurs avec plusieurs visages, qu'il y a des clubs, c'est un peu comme, et je terminerai là-dessus, mais souvent quand on parle des joueurs français au tennis, etc., moi je pense qu'il faut faire du cas par cas. Monaco doit être critiqué pour plusieurs choses, l'OM sur certaines choses, Lyon sur d'autres choses. Il faut pas mettre Monaco, je suis d'accord, moi.
Fred, vas-y, Fred.
Mais est-ce que tu peux vraiment te fonder sur le PSG d'avant la Coupe du Monde, où on sait très bien qu'il y avait Messi et Neymar qui faisaient leurs entraînements pour être bien à la Coupe du Monde, alors que c'est représentatif de rien du tout.
Sauf que ça t'a fait des points.
De rien du tout.
Ça t'a fait des points, oui. Et ces points-là, aujourd'hui, te permettent d'encore d'avoir 7 points.
On est en train de se battre contre les Pays-Bas et le Portugal.
Non, mais en fait, tu fais deux débats différents. Tu fais deux débats différents. En fait, le débat tout à l'heure de Sofiane, c'était j'aimerais bien qu'entre guillemets le travail des poursuivants, notamment Lens et l'Olympique de Marseille, soit récompensé par un titre, parce que le
Paris. Bon, Lens, non, mais on va dire Monaco. Monaco, pour moi, n'est pas à sa place. Marseille, j'aimerais bien qu'il soit récompensé.
C'était ça. En fait, c'était ça l'idée du débat. Bien évidemment que sur l'Europe, ne t'inquiète pas, on est ridicule et on a encore été ridicule cette saison. Le débat, c'était juste par rapport à ça. Comment en fait, ces équipes-là n'arrivent pas à passer devant le Paris Saint-Germain, qui sur cette saison-là est catastrophique. Et je répondais à
Sophie. Ces équipes-là, ils perdent contre
Annecy,
contre Andézieux, contre.
Mais mon ami, écoute, t'as raison parce que.
Non, mais
tu peux avoir raison parce que tu peux aussi nous remettre les pieds sur terre, mais je pense qu'on n'en a pas besoin sur le niveau de la Ligue 1 et sur le retard qu'on a par rapport à certains autres championnat et par rapport à certains championnats qui peuvent nous dépasser, t'as totalement raison. Après, moi je dis, il n'y a pas de fatalité. Si tu regardes par exemple la Serie A, il y a quelques saisons, quand ils avaient des Kevin Constant, que je respecte bien évidemment, du côté de l'AC Milan, t'étais dans un creux terrible en Serie A. Ils ont travaillé sur le jeu, ils ont travaillé des approches avec des entraîneurs, De Zerbi et d'autres notamment. T'as eu une bonne période de la Serie A avec une homogénéité, la Juve est tombée, d'autres équipes se sont relevées comme l'AC Milan, comme l'Inter, comme le Napoli. Et aujourd'hui, tu as les fruits de ce que tu avais fait sur les dernières années avec trois équipes italiennes en quart de finale de Ligue des Champions.
Et donc, c'est ce que dit Fred au final.
Moi, j'ai pas envie de.
Fred a raison, c'est que la Coupe d'Europe, c'est juste. Excusez-moi, juste je dis, mais ce que Fred dit, et au final, c'est la solution, elle est là. C'est que la Coupe d'Europe, les résultats en Coupe d'Europe des clubs français sont ton juge de paix. Moi, un des plus beaux championnats de France que j'ai vu, c'est avec des clubs l'année où Monaco fait finale de Ligue des Champions. Et,
en 2004,
je m'étais régalé avec l'OM. Il y a deux clubs en finale de Coupe d'Europe. C'est Lyon qui est champion. Et je trouvais que cette saison-là était géniale sur tous les aspects. Et pourtant, je te dis ça, je suis un club qui a fini 6e ou 7e.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Le seul truc, mais ce que dit Fred, c'est que tu veux des clubs qui challengent le PSG. Commence par challenger Shakhtar et Panionios, et après, on verra. Fred, merci d'avoir été avec nous.
Bah merci Nico, je ferai un bisou aussi à une connaissance qu'on a en commun, et puis voilà,
c'est
à l'ami journaliste. je peux dire son nom, peut-être que tu regretteras.
Vas-y,
c'est
Ronaldo.
C'est la thèse.
Ah, bien sûr qu'on l'embrasse, bien sûr, Roland.
Bien sûr, ouais, merci entre vous.
Bisous, Fred. Ciao,
c'est le Parisien.
Salut, ciao,
à bientôt.
Leslie, ils sont jaloux de notre bonheur, Fred.
Incroyable.
Dans un instant, gros dossier BEPF. C'est quoi, comment ça marche le BEPF pour les nuls? Comment ça fonctionne, vous savez, le fameux sésame pour entraîner au niveau? On aura deux invités avec nous en plus.
Grégory Poirier, entraîneur de Martigues, leader de National 1, et Julien Metz, qu'on connaît bien dans l'after, entraîneur de l'AS Auto au Congo. Alors, deux entraîneurs qui n'ont pas le fameux BEPF. Ils vont nous expliquer alors toutes les résistances qui existent parfois au sein des instances pour accéder à ce diplôme.
Comment on fait un prêt à la banque aussi?
Ouais, parce que ça coûte 30 000 balles quand même, l'histoire. Voilà, on vous attend au 32-16 pour réagir, bien entendu. Donc, gros dossier BEPF. Et puis, on aura un avis de Walid également sur l'AS Monaco. Walid qui va lancer un appel à Philippe Clément. Menou, Mbolo et Ben Yedder titulaire tout le temps. Comme ce week-end.
Ça suffit, ça
comme
suffit.
On a vu la diff. Allez, ça on vous suffit. Attend au 32-16 avec Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et avec Romain Canouti. À tout de suite.
Génération After.